Radio Capim, grand témoin.
Il a été président du Sénat pendant la transition, il est actuellement sénateur, Monseigneur Pierre Marini Baudot, président et représentant légal de l'Église du Christ au Congo, est l'invité de grand témoin. Monseigneur Pierre Marini, soyez le bienvenu et aussi bonne année.
Merci beaucoup, je vous le répète également, merci beaucoup.
Monseigneur Pierre Marini, au mois de mars prochain, vous aurez 70 ans, c'est-à-dire que vous avez plus ou moins vécu à la période coloniale. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette époque?
La période coloniale était une période aussi assez dure. C'était une pédagogie, je peux dire, une pédagogie politique qui nous a façonnés et puis nous avons connu les hauts et les bas de la colonisation. Et cela nous a permis aussi de faire un peu un bilan et chercher à voir comment est-ce qu'on peut se retirer de ce domaine de la colonisation. Et je crois que nous avons subi aussi quelques méfaits de la colonisation, tout comme les bienfaits également, parce que tout n'est pas rose et tout n'est pas aussi mauvais. Donc je crois que la colonisation nous a préparés pour être assidus et puis fidèles au travail, disciplinés aussi. Autrement dit, il y a des fouets qui nous attendent quelque part. Donc je crois que c'était aussi une pédagogie, tout comme si on est enfant, donc on peut subir, n'est-ce pas, ces choses-là. La colonisation a fait la performance, n'est-ce pas, de nos personnalités et nous l'avons connue pour raison d'histoire. Et c'est ce qui a fait que, pour faire la différence, il fallait alors solliciter, demander, exiger l'indépendance.
En 1959, vous décrochez votre diplôme à l'école des moniteurs à Aoumba, en province orientale, j'espère avoir bien prononcé. Comment avez-vous vécu les événements du 4 janvier 59?
Eh bien, merci beaucoup. Là, nous étions très loin. Vous savez, à Aoumba, si on situe cela, c'est au-delà de Bounia, donc à peu près plus de 200 km. Et à ce moment-là, pendant la colonisation, vous ne pouvez pas venir ici à Bounia. Il faut le fait des routes, on appelait ça l'autorisation même des sorties. Donc c'était difficile. On était cloisonnés, et même enfermés. Et puis nous avons suivi ça de loin. Pour nous, c'était un applaudissement parce que nous avons vu que c'était le premier pas vers la naissance d'un autre pays indépendant. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, nous avons soutenu cette action-là, avec le regret que ça a produit des effets négatifs.
Des morts, des décès.
Voilà, et donc de ce côté-là, c'était vraiment négatif. Mais c'était un mal nécessaire. C'est pourquoi nous sommes rejoints immédiatement, même sans voir les Lumumba, les Kasavubu, tout ce monde ici, que nous sommes en train d'apprécier maintenant tout près de nous, ici. Et nous étions fiers, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu cet effet négatif de la colonisation.
En 1970, vous décrochez votre diplôme de licence en théologie à l'Université libre du Congo. Le protestantisme, est-ce une tradition familiale chez vous?
Bon, c'était, disons, pour notre pays, nous étions les premiers théologiens, parce que cette université venait à peine de se créer. Et vous savez que cette université a été conçue en amont dans les années 1940-41, un peu plus loin, mais la réalisation était un peu plus tardive. Si vous lisez d'autres documents, vous allez voir que les missionnaires protestants ont pensé un peu à la formation au niveau universitaire parce qu'ils voyaient qu'un jour, ces gens ici seraient indépendants. Donc il fallait former le personnel qui pourrait diriger leur propre pays. Quand on lit les documents, c'est ça l'idée. Mais la réalisation, c'était venu un peu tardivement. Donc voilà. Mais c'était une grande université qui était là pour toute l'Afrique centrale.
À l'époque, était-il facile pour un jeune homme de choisir la théologie comme orientation et pour quel emploi?
Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que les pasteurs, à ce moment-là, vous savez, on ne voulait pas voir les pasteurs porter des pantalons, des ceci et cela, et voyait ça comme une profession de misère. C'est pour cela que quand nous avons choisi d'aller à l'école de théologie, alors il y avait au moins un de mes élèves qui m'a dit, mais vous êtes maintenant directeur, comment vous quittez des bonnes choses comme ça pour aller être pasteur, à vivre avec des lambeaux et tout ça? Alors moi je sentais qu'il y a, c'est le Seigneur qui m'a appelé, donc j'ai persisté jusqu'à la tête. C'était pas facile, facile. Mais maintenant, je vois des jeunes gens où j'enseigne, je vais y revenir plus tard. Je dis, je suis très content de vous voir ici. À notre époque, ce sont les vieux qui devaient aller là-bas.
Après avoir obtenu votre certificat en droit comparé à l'université de Strasbourg en 1971 en France, vous devenez docteur en théologie de la faculté libre de théologie protestante de Paris en 1962. Monseigneur Pierre Marigny, racontez-nous brièvement l'histoire du protestantisme en RDC.
Les premiers missionnaires protestants arrivaient ici en 1878. Donc les premiers pour la seconde évangélisation. Puis l'Église catholique est venue aussi un peu plus tard, 2 ans après. D'autres disent 10 ans, mais nous pensons avoir 2 ans après. Peu importe, le protestantisme a évolué depuis cette date-là à ces jours en plusieurs phases. La phase coloniale, les missionnaires qui collaboraient avec les colonialistes nous ont traités comme tels. Mais ensuite, dans les années 1934, ils ont dit, nous, les missionnaires, nous devons être à part. Et vous, les Noirs, vous devez avoir votre église. Nous devons être des missionnaires. Parce que nous pouvons disparaître un jour, mais l'église reste. Ça, c'est dans les années 1934. Alors, arrivé en 1960, nous avons continué avec le système colonial, qui était le conseil protestant, qui regroupait les missionnaires et l'église ensemble. Mais en 1970, alors à ce moment-là, la structure a été complètement modifiée. Et c'est cette structure-là que nous suivons aujourd'hui. Une église indépendante, forte, mais aussi dans sa diversité, regroupe autant de communautés pour que nous puissions aller dans cette diversité et l'unité. Avec 65 communautés, nous formons justement l'église du Christ au Congo pour l'ensemble de notre pays.
Radio Capi, grand témoin.
Ancien président du Sénat pendant la transition, il est actuellement sénateur, Monseigneur Pierre Marigny Baudot, président et représentant légal de l'Église du Christ au Congo et celui que Grand Témoin reçoit aujourd'hui. Monseigneur Pierre Marigny, entre 1960 et 61, vous travaillez comme directeur d'école primaire à Aoumba, en province orientale. Dans quelle ambiance le 30 juin 1960, date d'indépendance de la RDC, avait-elle été vécue en province orientale où vous vous trouviez?
Là, je peux décrire la situation à Aoumba, parce que
oui.
Je n'étais pas à Bunia, ni à Mahagi, ni
à Aoumba.
Donc à Aoumba même, à ce moment, on avait la radio, vous voyez, qui fonctionnait sur la batterie, c'est plus comme ça, et nous avons suivi. À ce moment, il faisait un peu doux, parce que nous sommes à 60, donc la saison presque de pluie. Et alors, tout le monde venait nous entourer, nous qui étions des moniteurs, on avait acheté des radios, et on suivait les Pôles-Villes. Pas Kinshasa, mais les Pôles-Villes. Vous voyez ça, on suivait les événements pas à pas. Et là, tout le monde était fier d'avoir obtenu ce qu'il cherchait depuis longtemps. Et moi, j'ai vécu cela parce que j'étais directeur, et les gens venaient de d'autres coins, le soir surtout, après avoir travaillé au champ, et les gens se regroupaient autour de la radio. Alors, on écoutait, on suivait cela. Et on écoutait les petites voix, soit de Kasavubu, soit même de Lumumba. Ils avaient toujours la voix ténor. Et même Bordeaux aussi, la voix ténor aussi. Vous voyez ça? Donc, ils parlaient, et c'est une voix qui piquait comme ça. Et ça a secoué tout le monde. Et les gens étaient fiers. Et nous étions fiers, et nous restons fiers. Malgré les problèmes d'aujourd'hui, nous restons fiers. Bon, les fautes sont corrigibles, on pourra les nettoyer avec le temps.
De 1969 à 1998, vous exercez les fonctions de vice-président national et représentant légal premier suppléant de l'Église du Christ au Congo, aux côtés de Mgr Boukili Ali, qui était le président national. Quel souvenir vous gardez de cet homme qui a marqué le protestantisme en RDC?
C'est une personnalité historique. Parce qu'après 8 ans du président honoraire Pierre Chaoumba, c'était le président Boukili Ali qui a commencé en 68 et qui a pu travailler. Moi, je me sentais comme un rien devant une personnalité de haute taille, d'abord qui avait joué aussi un rôle au niveau de l'indépendance, même à la table ronde en Belgique, et puis qui a accepté de fonctionner à côté déjà comme les Bomboko et les autres. Alors moi, j'étais fier d'être au moins un élève, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a une expertise, quoi. Alors, j'étais très, très content. Mais il n'était pas aussi un homme simple, un homme assez dur aussi. Et j'ai vécu ça pendant 19 ans. Donc, très solide, le haut et le bas, mais je me comportais toujours comme un étudiant qui apprend. Alors, c'est pourquoi j'étais fier d'avoir appris quand même beaucoup de choses. Puis, parce qu'on a déjà eu des hauts et des bas pendant la colonisation, pendant ceci et cela. Et arriver à ce niveau-là, c'était une grâce spéciale. Pourquoi moi, à Aoumba là-bas, ici à Kinshasa. Voilà un dilemme Moi, j'ai dit, c'est bien. Et si vous voulez, je pourrais ajouter tout simplement pour dire que je voyais une préparation de longue durée. C'est ça qui a fait qu'on a pu être façonné pour endurer les difficultés, les problèmes de notre temps. Donc, moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il a pu faire pour moi.
Que répondez-vous, Monseigneur Pierre Marigny, à ces personnes qui pensent que l'Église du Christ au Congo semble traîner les pas, dans ce sens qu'elle n'a presque pas de grandes infrastructures, hôpitaux, écoles, universités, lieux de culte, surtout en province?
C'est une question assez importante. Je crois que ceux qui posent de telles questions ne connaissent pas l'Église du Christ au Congo. Depuis 1878, nous avons 86 hôpitaux et d'autres sont encore en formation. Plus de 600 centres de santé ou centres hospitaliers. Nous avons des écoles, des milliers de milliers. Et puis nous avons plus de 25 millions de chrétiens répartis ici et là. Et 25 millions, on a chez nous la statistique catégorie seulement les baptisés. On n'a pas compté les enfants. On pouvait aller encore plus. Et nous avons les universités maintenant. Nous avons enseignement supérieur universitaire, à peu près 35. Donc, ça dit déjà beaucoup. Je crois qu'il y a aussi un impact et nous sommes organisés jusque dans les villages. Nous essayons de faire de notre mieux avec des moyens de bord. Je dis bien avec des moyens de bord parce que nos missionnaires qui ont travaillé ne pouvaient plus continuer à nous aider, nous supporter. Et il n'y avait que les petits moyens que les chrétiens mettaient à leur disposition pour le travail. Et maintenant, nous travaillons parfois avec des difficultés, mais nous parvenons à sortir. Moi, je suis fier de cette église. Dans notre pays, nous avons des gens formés à un niveau supérieur. Nous avons des professeurs de haute qualité, de haute expérience, de tout ça. Mais ce n'est pas assez. Et vous voyez, la petite université que nous avons ici à Kinshasa fait déjà des merveilles. Pendant les difficultés, tout ça, nous continuons à construire. Et nous avons un projet, selon le synode, de construire un grand hôpital de 1200 lits. On peut répartir en 4 blocs de 300-300. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Et je crois qu'avec le temps, pas nécessairement moi, mais il y a d'autres qui viendront faire le finissage de ce projet.
Quelle est alors la position de l'Église du Christ au Congo par rapport aux églises de réveil dont la majorité est constituée des dissidents de l'Église protestante?
Oui. Donc, je crois que une question assez délicate, mais je peux répondre en flottant peut-être. L'Église du Christ au Congo reste une mer. La mer reste solide. Et lorsque la mer est solide, n'est pas tellement secouée. Vous voyez, quand il y a un vent, le vent secoue les branches, les feuilles et tout cela. C'est ça les groupes de réveil qui peuvent sortir de nous parce que nous sommes de la réforme. Donc cette réforme continue à se réformer, malheureusement à se détacher davantage. Mais je vous informe qu'il y a toujours la demande de revenir à être soudé à l'Église du Christ au Congo.
Et Monseigneur Marigny, là on ne va pas de protestation en protestation.
Oui, je crois qu'il y a aussi un autre problème parce que lorsqu'il y a la réglementation pour essayer de mettre de l'ordre, même il y a des lois. Et au niveau même de l'exécutif, on ne les applique pas. Parce que, vous voyez, on dit les gens qui doivent diriger l'église doivent être au moins licenciés en théologie. Alors maintenant, n'importe qui, le matin, se réveille et crée déjà une communauté. Alors, comme des pharmacies, de tout ça, même la pharmacie, il faut la loi. Je crois qu'il faut apporter une certaine correction aussi à la loi réglementant les cultes.
Vous êtes président du programme interconfessionnel de lutte contre le VIH-SIDA. Quel est le credo des confessions religieuses face au VIH-SIDA, Monseigneur Marigny?
Eh bien, vous savez, le sida est aveugle. Et le sida ne connaît pas nos doctrines, nos théologies. Donc, c'est pour vous dire que si nous revenons sur les questions doctrinales et tout ça pour traiter le sida, alors nous sommes condamnés à échouer tout simplement. C'est à cause de cela que nous avons fait un forum qui regroupe toutes les confessions religieuses. En ce moment, j'avais dit, écoutez, si nous ne nous occupons pas de cela, nous serons des pasteurs chômeurs parce que vous trouverez que tous les chrétiens sont déjà morts. Nous ne serons plus des pasteurs, mais les pasteurs de nous. Alors, c'est pourquoi nous devons maintenant abandonner tout de côté et nous mettre ensemble les chrétiens et les musulmans et encore d'autres religieux pour que nous puissions faire face à ces problèmes communs à nous tous. C'est comme la lutte, vous voyez, les États-Unis, hein, quand il y avait ces problèmes de tour là qui étaient liés. Les démocrates comme les républicains, ils ont d'abord abandonné la politique à côté. Il y a ici en face, il y a la lutte est commune. Donc c'est comme ça que nous pouvons parler du sida nous travaillons ensemble et nous essayons de donner cette possibilité pour que nous occupions d'abord de l'homme et la femme que Dieu a créé à son image avant de faire n'importe quoi.
Monseigneur Pierre Marigny, président honoraire du Sénat, pensez-vous que la religion et la politique font bon ménage?
Oui, parfois, vous savez, dans l'histoire, hein, c'est grignoter les figures, hein, c'est comme, n'est-ce pas, un panier à crabes. Hein. Oui. Donc, si c'est le panier à crabes, d'abord, l'objectif, c'est l'homme et la femme. Et ensuite, il y a plusieurs manières d'aborder le problème de l'homme et de la femme. Alors, pour certains, j'ai lu des ouvrages, je vais écrire un article là-dessus, j'ai commencé à tenir aussi des conférences. Je crois que l'objectif reste le même. La politique organise la cité. Là, nous devons alors professer notre foi. Et le moment où notre cité n'est pas organisée, nous allons prêcher auprès de qui et avec quels moyens. Donc, vous voyez, il y a ici ce que nous appelons la diaconie globale dans la politique. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que les gens qui gèrent la politique gèrent bien. Ça nous permet aussi de faire notre travail. Et si nous sommes intéressés à cela, c'est parce que la politique est venue détruire tout ce que nous sommes, tout ce que nous devons faire. Je ne peux pas aller à Bounia, je ne pouvais pas faire ceci et cela parce que la politique a bloqué la route. Même chez moi, à Oumoua, je ne pouvais pas aller. Alors, vous voyez, ça est la politique. C'est pourquoi nous avons dit, bon, arrangeons d'abord la cité, et ensuite nous allons rentrer dans nos cathédrales.
Pendant la transition, vous étiez président du Sénat, nous l'avons dit, et aujourd'hui vous êtes sénateur élu de la circonscription de l'Itouri. Racontez-nous un peu la genèse de votre carrière politique.
Franchement, quand j'ai vu à 60, c'était bien. Mais arrivé à 60 et 62, sécession. 65, rébellion. Alors ça devenait un grand problème. Nous avons subi des conséquences assez graves. C'est pourquoi j'ai dit non, je ne veux plus de la politique. Parce que ça va me séparer de la jeunesse que j'aime beaucoup. Et c'est pour cela que j'ai choisi d'être aussi professeur, enseignant et tout cela. Et alors après, on a continué jusqu'à 1990. En 1990, il y a la conférence nationale. Monseigneur Bokele a dit, vous allez me représenter là-bas. J'ai dit, non, je ne veux pas de la politique. J'ai dit, non, vous allez me représenter. Et c'est à ce moment-là que je commençais maintenant à connaître exactement qu'est-ce que c'est de la politique. Et finalement, j'ai dit, mais nous avons mal fait, parce que si nous laissons la politique, alors le diable va ramasser la politique et faire ce qui se passe dans la rébellion de ceci ou cela. Nous devons aller là-bas, nous devons édifier les chrétiens pour qu'ils soient forts et qu'ils dirigent bien les choses, ils mettent les choses au point, et alors nous pouvons faire notre travail. Et c'est ça qui a fait que je me suis intéressé à cela, et en essayant aussi d'évoluer avec les autres, savoir aussi les écouter et voir leurs problèmes. C'est pourquoi même vers la fin, je disais au sénateur, maintenant, si même je ne suis pas là, j'essaie comment prier pour vous autres ici. Parce que je connais le problème que vous confrontez. Alors vous voyez ça? Et ça nous a mené aussi dehors, en Afrique du Sud, en Nairobi, partout. On a essayé d'écouter les autres.
Certains de vos détracteurs pensent que l'on ne sent pas tellement l'Église protestante prendre position, exercer des pressions dans certaines questions brûlantes du pays. Qu'en dites-vous?
Ok, bon. Ils peuvent continuer la critique pendant ce moment, n'est-ce pas, de la démocratie. Nous, nous sommes prêts à se laisser critiquer. Mais la prudence, nous disons au soilophone, araka, araka, kuna baraka. C'est-à-dire, quand vous faites vite, vite, il n'y a pas de bénédiction. Il faut d'abord suivre les choses. Parce que quand l'Église s'exprime, elle doit s'exprimer une fois pour toutes et correctement. Alors, il faut aussi savoir écouter tous les côtés avant qu'on puisse prendre une position. Et c'est ça la prudence de notre Église. Ça se passe depuis longtemps. Il faut écouter parce que ce n'est pas la première fois qu'on est en train de traverser ces circonstances et comment est-ce que dans le temps l'Église s'est comportée face à l'autorité politique. Parce que parfois on peut aussi faire des erreurs au nom de Dieu, mais or que Dieu peut aussi utiliser la politique. Voilà.
Oh. Notre commande à aider ses collègues, qui te parlent alors, vous toujours y allez au vie. Bonjour, y a ses oeufs, ça c'est mon père, mon limon à y aller, et mes yeux passés là. Thank you.
Il a été président du Sénat pendant la transition, il est actuellement sénateur, Monseigneur Pierre Marini Baudot, président et représentant légal de l'Église du Christ au Congo, et celui que Grand Témoin vous fait découvrir. Monseigneur Marini, je vais vous inviter à faire un clin d'œil à l'actualité. L'année 2007 appartient désormais au passé. Quel bilan les grandes formations politiques congolaises font de cette année et que souhaitent-elles pour l'année 2008 pour le pays? Pour Thomas Louaka, secrétaire exécutif du MLC, 2007 a balisé la voie démocratique en RDC, certes, mais il n'a pas amélioré le social des Congolais. Pour 2008, il propose une équipe gouvernementale plus dynamique. L'Alliance pour la majorité présidentielle, quant à elle, dit que 2007 reste l'année de stabilisation du cadre macroéconomique. Koya Gyalo, secrétaire exécutif national adjoint de l'ANP, affirme que la nouvelle année est envisagée selon les priorités gouvernementales, à savoir la construction des routes, hôpitaux et écoles, tels que conclus dans les accords de partenariat avec les pays étrangers. L'UDPS, elle, plaide pour une vraie réconciliation nationale. Joseph Kapika, secrétaire national de ce parti, dresse un bilan négatif de 2007. Il est au téléphone de Onésime Mukandia.
Le bilan 2007 est extrêmement catastrophique. 2007 a commencé sur fond de guerre, et le sera sur fond de guerre. Souvenez-vous de la guerre qui a opposé Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba. Souvenez-vous du massacre des populations Bundiga Congo dans le Bas-Congo. Souvenez-vous des journalistes arrêtés ou tout simplement tués à gauche et à droite. Vous avez assisté à des mouvements de grève un peu partout. Voyez l'état de nos routes, le nombre d'enfants qui ne vont plus à l'école, la morosité dans laquelle la population a fêté le nouvel an. Alors qu'on nous avait promis la paix, l'année s'est terminée sur fond de guerre à l'est. Des populations entières sont dispersées dans les forêts, le vol, les viols se poursuivent. Perspective d'avenir. S'il n'y a pas de réconciliation nationale, il est donc grand temps que le peuple puisse se réconcilier avec lui-même à travers des concertations de toute la classe politique et de la société civile. En dehors de cette réconciliation-là, je ne vois pas ce que ce gouvernement est populaire de faire.
Monseigneur Pierre-Marie Nibodeau, sénateur et représentant légal de l'Église du Christ au Congo, pensez-vous que la RDC a besoin d'une vraie réconciliation nationale?
Ce que je reproche d'abord, le Congolais n'est pas sincère. Il signe des accords, se réconcilie, mais c'est du bout de lèvres. Donc il n'y a pas un fond spirituel connu, expertise. Peut-être dire le Congolais, c'est trop dire. C'est dire quelques Congolais, c'est encore mieux, scientifiquement parlant. Et je crois que nous devons faire un effort d'être dans la sincérité, dans la vérité. Et l'amour du pays demande aussi des sacrifices. Nous l'avons fait, et si nous avons fait aussi des sacrifices, je crois que peut-être ce n'est pas un exemple à suivre, peut-être c'est la manière de le faire. Savoir aussi évaluer, accepter ce que l'autre a fait, c'est considérer non pas moi je suis plus important que les restes. Je crois que cette humilité aussi manque. C'est très important. Nous devons changer de mentalité pour dire l'autre peut-être peut faire encore mieux que moi. Nous l'avons vécu et la paix ne dit pas seulement la paix au bout de lèvres, mais aussi la paix sincère. Tout ce qui se passe maintenant, je peux dire que c'est tout simplement des accords qu'on signe ici. Et on continue à signer des accords sur des accords sans avoir appliqué ce qui a été dit avant. Alors ça, c'est une erreur grave. Alors si on parle aussi des changements de mentalité, il ne faut pas que ce soit aussi au bout des lèvres. Mais il faut qu'on mette ça en pratique et on verra le pays changer.
Monseigneur Marigny, l'actualité, c'est aussi la conférence sur la paix, la sécurité et le développement des deux Kivus. Quel sens accordez-vous à cette conférence?
Après avoir vécu les méandres des difficultés que nous avons dans notre pays, je dis voyons voir, parce qu'il faut la sincérité. J'y reviens, et le mot est choisi. Sélectionné, j'insiste là-dessus, la sincérité. Quand nous disons oui, et que notre oui soit oui, et que notre non soit non, et s'il y a un problème, la réconciliation doit être aussi sincère. Et je crois que chacun cherche aussi sa sécurité. Alors nous devons nous sécuriser les uns les autres. Alors, si nous sommes sincères et nous y arrivons, je crois que nous pouvons avancer. Donc, à Goma, je crois que maintenant, il faut qu'il y ait la sincérité. Il faut que tout le monde s'y accorde et pour qu'on puisse aller de l'avant. Si l'unité fait la force, alors la partie est du pays doit faire aussi une partie de force pour que nous puissions évoluer. Autrement dit, nous marquons les pas sans avancer. Et ce n'est pas bon.
Radio Capi, grand témoin.
Pour revenir à vous, Monseigneur Marigny, vous êtes également professeur à l'Université protestante au Congo. Vous êtes membre de plusieurs sociétés savantes et vous avez à votre actif plusieurs publications et des monographies inédites. Je cite à titre d'exemple « Le souverain primaire en deuil ». À votre avis, quand est-ce qu'un peuple peut se déclarer en deuil?
Merci beaucoup, mais le deuil n'était pas terminé. Hein. J'étais déjà en train de dire que maintenant, aller aux élections en deuil, et c'est ça. Ce peuple continue à être endeuillé. Au moment où j'écrivais ce texte-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. On n'avait pas un bilan, disons, calculable, une statistique correcte. En 65, on parlait de 5000 morts. Et c'est comme ça qu'on parlait. Aujourd'hui, c'est millions. Donc, le deuil continue. Alors, pour que le deuil cesse, il faut retourner vers Dieu. Je dis bien vers Dieu. Même si notre pays est laïque, et ça c'est dit, la laïcité ne décommande pas la spiritualité. Vous savez que pour mettre le nom de Dieu dans le texte de la Constitution, et ça a été passé par vote. Et les gens ont dit non, il ne faut pas mettre le nom de Dieu là-bas. Nous avons dit mettez là-bas. Et on a voté. La majorité, la grande majorité a dit mettez le nom de Dieu. Les erreurs que nous faisons sont les nôtres. Mais nous devons mettre notre pays sous la protection divine. Et là, nous verrons la bénédiction de Dieu sur nous. Donc, je crois que ce que vous posez comme question est difficile à répondre, mais je crois que si Dieu nous a donné ce pays, et nous avons aussi la responsabilité de le garder, de le cultiver, de le protéger par tous les moyens nécessaires, de l'est à l'ouest et du nord au sud, donc nous devons nous sentir une famille.
Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, Monseigneur Pierre-Marie Nibodeau. Quel message l'autorité morale et politique que vous êtes peut-elle adresser aux auditeurs qui nous suivent et en particulier aux populations de l'Est qui souffrent tant?
Oui, d'une manière globale, je peux dire aimons-nous les uns les autres. Alors, cet amour-là n'exclut pas les diversités. Les diversités font la richesse pour nous. C'est pour dire que dans la démocratie, on ne peut pas dire ce que moi j'ai dit est mieux que les autres. Je crois que c'est important. Et l'amour bannit la haine. L'amour bannit aussi le soupçon. Et c'est très bien. Alors, c'est pour cela que j'ai dit, mettons notre pays entre les mains de Dieu. Et la population de l'Est, confiez-vous au Seigneur. Nous prions, nous sommes solidaires. Il y a un temps pour tout. Temps pour la guerre, mais aussi de la paix. Et nous pensons que maintenant, c'est la paix. Et ça viendra.
Ancien président du Sénat pendant la transition, actuellement sénateur, Monseigneur Pierre Marini Baudot, président et représentant légal de l'Église du Christ au Congo, est celui que grand témoin recevait pour vous. Nadine Foula a réalisé cette émission et Willem Lungamba l'a mise en onde. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous pouvez voir les photos de nos invités. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.